的。Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir les amis, soyez sages. Pour nous c'est parti, le 18-20, France Inter est ouvert. Bonne arrivée et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez savoir sur cette journée du jeudi 24 juin avec le journal d'Anaïs Feugat. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir commence avec une question: comment donner un coup d'accélérateur à la vaccination?
Alors que le variant Delta semble prêt à emballer l'épidémie, les collectivités locales rivalisent d'imagination pour permettre au plus grand nombre de se faire vacciner contre le coronavirus. 200 000 vaccinations par jour, c'est insuffisant, dit le Premier ministre. Les personnels des EHPAD sont plus que jamais invités à passer par la case piqûre. Le corps de Lucas Tronche a-t-il été découvert? Des ossements viennent d'être retrouvés dans le Gard, dans la commune de Bagnols-sur-Cèze, là où le lycéen avait disparu en 2015 en allant à la piscine. C'est l'un des cas judiciaires non résolus jusqu'à ce jour. Plus de 6 milliards d'euros pour financer l'aide aux réfugiés en Turquie, au Liban et en Jordanie. Réunis en sommet, les États européens doivent décider de passer à la caisse pour couvrir les besoins urgents des déplacés syriens. Enfin, un euro qui ne passionne pas les fans de football, la Mannschaft, vue par moins de 10 millions de téléspectateurs hors d'Allemagne. On vous explique pourquoi.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir nous sommes en Arménie. Nicole Pachignan a gagné assez nettement les législatives anticipées qu'il avait réclamées. Le même Nicole Pachignan décrié par sa population après la guerre dans le Haut-Karabakh et les accusations de trahison même dont il faisait l'objet. À 19h20, le téléphone sonne, c'est la politique du moment. Le sport et la politique doivent-ils être hermétiquement séparés? Est-ce qu'on fait de la politique quand on est footballeur et qu'on met un genou à terre? Est-ce qu'on fait de la politique quand on allume un stade aux couleurs LGBT+? Est-ce que le sport doit être hermétiquement clos par rapport à ce qui secoue la société hors des stades? On en discute ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Comment donc donner un coup d'accélérateur à la vaccination?
Oui, on a eu les pénuries de vaccins, les difficultés de rendez-vous pour se faire vacciner. Mais aujourd'hui, ce sont bien les bras qui manquent, pas les bras qui injectent, les bras qui reçoivent les piqûres. 200 000 personnes vaccinées par jour en ce moment contre un demi-million en mai. C'est trop peu, a dit ce matin le Premier ministre dans les Landes, alors que la course de vitesse n'est pas terminée contre la propagation du variant Delta. Un peu moins de 20 millions de Français sont complètement vaccinés. L'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à 35 millions entièrement immunisés fin août. Alors même si on est encore loin en France des loteries organisées comme en Virginie-Occidentale aux États-Unis avec pick-up, permis de pêche ou fusil de chasse à gagner pour les vacciner. Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
En France, on remarque depuis quelques jours des efforts, souvent de la part des collectivités locales pour séduire de nouveaux publics.
Et figurez-vous que le jeu concours, ça existe en fait aussi déjà en France, un petit peu, vaccin contre cadeau. La métropole de Nîmes vise les 18-25 ans en leur faisant miroiter en échange d'une piqûre, des abonnements de bus ou de tram ou des séances de piscine ou de spa.
Sur le principe, je trouve ça bien quand même. Je pense qu'il y en a certains qui vont vouloir se faire vacciner juste pour avoir ça et ça fait des vaccinés en plus, quoi.
Avis mitigé quand même, certains trouvant la ficelle un petit peu grosse. Les jeunes spécialement visés aussi à Mayotte où le rectorat vaccine directement dans les lycées. Et en métropole, toujours avec cette idée de se poster là où les habitants se trouvent, des vaccibus circulent un peu partout sur le territoire, notamment en zone rurale, là en Gironde.
Comme je n'avais pas les moyens d'aller au pôle de santé, je n'allais pas y aller avec mon tracteur. Et chercher sur Internet, j'ai cherché.
Plus généralement, le sans rendez-vous, l'éphémère, se développe en France. Un stand vaccin, par exemple, repéré sur le marché de Bourganeuf, dans la Creuse.
Bonjour, on racole pour le Covid. Est-ce que tout le monde est vacciné?
Oui.
Alors, on n'a pas de clients, là?
Non, pas de clients.
Même opération éclair à Mondeville, près de Caen, dans un centre commercial. Une tente vaccin entre deux boutiques de vêtements. Et puis, le Vaccidrive, ça marche toujours à Villepinte, par exemple, en Seine-Saint-Denis. Épaule tendue à la fenêtre.
Merci Julie Pietri. Merci aussi au local de France Bleu Gard, Lozère, Creuse et Gironde. Manier la carotte, on l'a compris. Manier le bâton, pourquoi pas. La menace voilée, brandie encore une fois ce matin par le chef du gouvernement. Il est impératif que les personnels des EHPAD soient tous vaccinés d'ici la fin du mois d'août. À défaut de quoi, nous prendrions nos responsabilités, dit Jean Castex. C'est ce que demande aussi le syndicat national des établissements pour personnes âgées. Écoutez sa représentante Florence Arnay-Maumé.
Nous le demandons depuis le début. Hein. Nous avons toujours demandé. Alors, les campagnes de pédagogie, nous les faisons depuis le mois de décembre. Nous avons été prévenus le 1er décembre que le vaccin arrivait le 27. Maintenant, évidemment, il faut que les salariés aillent plus loin dans la vaccination. On est toujours sur un taux de 50 à 60% de salariés vaccinés. Il faudrait qu'on puisse atteindre 80% de salariés vaccinés. Et l'État a raté l'entrée dans la crise au niveau des EHPAD. Nous avons fait ce que nous avons pu. Pour autant, bien sûr, ça a généré une défiance à la fois des personnels, à la fois des familles et des résidents. C'est normal.
Florence Sarnet, Momé avec Bruno Duvic. Dans les Landes, renforcement pour les 7 prochains jours des tests et de la vaccination. Et si cela ne suffit pas, la levée des mesures de restriction prévues au 1er juillet en France pourrait être différée. En Russie, la campagne de vaccination est largement à la traîne. Résultat, 20 000 nouvelles contaminations, 568 décès en 24 heures. L'épidémie galope à cause du variant Delta. 90% des contaminations à Moscou. Et puis en Afrique, la troisième vague prend de la vitesse, se propage plus vite, frappe plus fort. Les mots inquiets de l'Organisation mondiale de la santé. Cette troisième vague menace d'être la pire à ce jour dans le continent. En France, voici peut-être un pas décisif dans l'enquête sur la disparition du jeune Lucas Tronche. Ce lycéen de 15 ans avait disparu en mars 2015 à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, alors qu'il se rendait à un cours de natation. Disparition jamais élucidée depuis. Ce soir, le procureur de Nîmes annonce que des ossements humains pouvant être ceux de l'adolescent ont été retrouvés. À Nîmes, les précisions de Sylvie Duchesne.
C'est dans un lieu difficile d'accès que ces ossements ont été découverts sur des parois rocheuses, seulement accessibles par des pompiers spécialisés. Selon l'avocate des parents de Lucas Tronche, cette zone avait déjà été fouillée avec des chiens sans succès. Près des ossements également des débris de vêtements et ceux d'un sac similaire à celui que l'adolescent portait au moment de sa disparition le 18 mars 2015. Le procureur de la République de Nîmes indique que ces ossements vont faire l'objet d'examens médicaux légaux et génétiques. Les résultats pourraient être connus d'ici 5 à 10 jours. Au début du mois, l'affaire avait été évoquée lors de la nouvelle émission en direct de M6, Appel à témoins, pour tenter de faire avancer cette enquête ouverte depuis maintenant 6 ans. Les recherches ordonnées aujourd'hui par la juge d'instruction n'ont aucun lien avec cette émission, précise le procureur.
Sylvie Duchesne de France Bleu, Gare Lozère. Elle était morte il y a 10 jours percutée par une trottinette électrique à Paris. Une Italienne de 32 ans, Myriam, qui discutait avec des collègues de travail en bord de Seine. Le 14 juin dernier, elle avait été violemment percutée par une trottinette conduite par deux jeunes femmes qui avaient pris la fuite. La police vient d'arrêter deux jeunes femmes. Elles sont en garde à vue soupçonnées d'avoir provoqué l'accident. Une amende de plus de 7 millions d'euros pour la banque française Natixis. Jugement sévère du tribunal correctionnel de Paris qui l'a condamné pour tromperie assumée et grave. Natixis avait sous-estimé son exposition indirecte au subprime. Son cours s'était effondré en 2009, passant de 19 euros l'action à moins de 1. Seul procès en Europe concernant une banque et les subprimes.
Les élections régionales acte 2 et ce soir la scène de la trahison.
Oui, dans l'acte 1, avant le premier tour, on se souvient de la scène du psychodrame en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La République en marche, absorbée par la liste du président sortant LR, Renaud Muselier, qui vient d'ailleurs de recevoir le soutien de Nicolas Sarkozy. Dans une interview à Nice ce matin, il dénonce la trahison des engagements de Thierry Mariani, ex-républicain, aujourd'hui meneur de la liste Rassemblement National. Eh bien, en Ile-de-France, c'est justement cette scène de la trahison qui se joue depuis hier, depuis que deux poids lourds issus de la gauche, Manuel Valls, et l'ancien président de région, Jean-Paul Huchon, appellent à voter pour la candidate de la droite, Valérie Pécresse. Bonsoir Laurence Perron, il y a de la stratégie là derrière.
Oui, pas une voix pour la France insoumise. Cette alliance est une faute morale et politique. Voilà Manuel Valls, pleinement de retour, à marteler, encore 5 ans après, sa théorie des gauches irréconciliables. Plus inédit, certains de ses ministres lui emboîtent le pas, Laurence Rossignol notamment, ou l'ancien patron, vous l'avez dit, de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon. Ils appellent à faire perdre cet attelage de gauche en votant Valérie Pécresse. Voilà qui est savoureux, nous glisse un socialiste, sachant que ces gens-là ont contribué à tuer le PS en le laissant exsangue à 6% en 2017. Le député insoumis Alexis Corbière tacle, Valls, c'est l'idiot utile de la droite et de l'extrême droite. De toute façon, il peut le dire ce qu'il veut, il est détesté. Politiquement, c'est assez absurde, sachant que sans les insoumis au départemental, qui se joue aussi, en Ile-de-France, le PS pourrait perdre la Seine-Saint-Denis. Mais en réalité, vous le disiez, il y a clairement du calcul politique en vue de 2022. Laurence Rossignol joue pour Arnaud Montebourg sur un axe gauche républicaine plus droitier. Manuel Valls, dont Emmanuel Macron n'a pas voulu, saute manifestement la case La République en marche pour une nouvelle carrière de droite assumée. Alors l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, lui, a annoncé qu'il viendrait soutenir Julien Bayou. Il a clairement choisi son camp des gauches, véritablement irréconciliable, quand elle vire à droite.
Dans les Hauts-de-France, balayé par un cruel premier tour pour la majorité présidentielle, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, se rabiboche avec son collègue de l'Intérieur. Après la passe d'armes hier, le premier accusant le second de trahison pour avoir félicité Xavier Bertrand. Ils font savoir tous les deux qu'ils déjeuneront ensemble la semaine prochaine. Ils se sont parlé, ça s'est bien passé selon leur entourage. Le Conseil de l'Europe vivement préoccupé par la surpopulation carcérale en France. En décembre 2019, une visite dans des commissariats et des gendarmeries et des prisons a une nouvelle fois montré les conditions matérielles de détention, les insultes, les menaces. Le Comité pour la prévention de la torture préconise à la France de rappeler régulièrement à l'ensemble des forces de l'ordre un message de tolérance zéro. L'Europe réunie en sommet à Bruxelles avec un menu bien épineux au dîner de ce soir entre chefs d'État et de gouvernement. Dialogue avec Moscou, règles communes sur la pandémie et ce plat de résistance, la Hongrie de Viktor Orban. Sa loi accusée de discriminer les personnes LGBT, la Hongrie n'a plus rien à faire dans l'Union européenne, a déclaré le Premier ministre néerlandais en arrivant à Bruxelles. On en parlera avec Angélique Bouin tout à l'heure à 18h50. Autre sujet loin aussi de faire le consensus, la question des réfugiés. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Anaïs.
Sur laquelle les chefs d'État européens se penchent pour la première fois depuis 2018.
Oui, une question loin de faire consensus effectivement, mais les 27 devraient se retrouver pour soutenir la défense des frontières et mettre la main à la poche afin de payer la Turquie notamment pour qu'elle garde ces migrants dont nous ne voulons à aucun prix. C'est le sens de l'accord signé avec Ankara il y a 5 ans. Désormais, la Turquie abrite quelques 4 millions de réfugiés syriens sur son sol et on le sait, use et abuse de cette arme migratoire pour peser dans ses échanges avec l'Union. Elle a déjà reçu plus de 6 milliards d'euros et devrait se voir octroyer 3 milliards et demi supplémentaires jusqu'en 2024. C'est du moins la proposition que la Commission met sur la table. Une ligne qu'a synthétisée à son arrivée le chancelier autrichien Sébastien Kurz.
Notre position est très claire. Nous voulons stopper l'immigration illégale. Nous voulons que les migrants qui sont dans l'obligation de fuir leur pays soient pris en charge dans les pays voisins du leur, plutôt que d'arriver jusqu'en Europe centrale et se demander à ce moment-là dans quel pays ils vont déposer leur demande d'asile. Tout cela concerne la Turquie, mais aussi d'autres pays de la région. L'Union européenne apporte une aide financière, l'Autriche y participe, et nous avons l'intention de continuer à le faire.
De nouveaux fonds assortis de nouvelles priorités, moins d'humanitaire et un peu plus de soutien socio-économique et de contrôle. C'est cette ligne qui prévaut au sein de l'Union, faute d'accord sur un partage dans l'accueil des migrants qui continuent à s'échouer en nombre sur les rivages italiens, grecs ou espagnols.
Au Tigré, des réfugiés par millions et ce nouvel épisode sanglant. Le bilan est provisoire, mais au moins 64 personnes ont été tuées, près de 200 autres blessées sur un marché de Togoga. Bilan du bombardement de l'armée éthiopienne mardi.
Le match Portugal-France hier a fait le plein de téléspectateurs.
Plus de 15 millions devant TF1, plus d'amateurs de foot et d'euros que d'électeurs visiblement. C'est en tout cas le record d'audience de cette année, mais aussi l'arbre qui cache la forêt. Car pour les autres rencontres de l'euro comme Italie-Turquie ou Finlande-Belgique, les chiffres sont moins bons qu'il y a 5 ans, Jules Haus.
France, Italie, Angleterre, Espagne et Allemagne. L'agence News Tank Sport observe l'audience des matchs de ces 5 grands pays de football et depuis le début de l'Euro, le constat est le même partout, d'après l'analyste Aurélien Savrin.
C'est vrai que les audiences qui ne concernent pas les matchs de l'équipe nationale sont en baisse par rapport aux éditions précédentes. En Allemagne, il n'y a aucun des matchs de poule qui a fait plus de 10 millions de téléspectateurs hors Allemagne, ce qui n'était pas le cas lors des précédentes compétitions.
Une baisse d'audience qui s'explique d'abord par l'augmentation de l'offre sportive, d'après Christophe Le Petit. Il est expert au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges.
On frôle les 200 000 heures de sport à la télévision par an en France. Le téléspectateur devient beaucoup plus sélectif. Les rencontres de l'équipe de France font partie des choses qui sont cochées, là où peut-être qu'un Ukraine-République tchèque n'est pas forcément dans le haut de la pile dans les choses à consommer.
Autre explication à cette baisse d'audience, le format de la compétition. Avec 16 équipes qualifiées sur les 24 engagées, ces phases de poule laisseraient trop peu de place au suspense. Plus généralement, le football souffrirait de la baisse drastique du nombre de matchs diffusés en clair tout au long de l'année et du changement des habitudes de consommation chez les jeunes, qui préfèrent souvent regarder les meilleurs moments d'une rencontre sur Internet que le match en entier à la télévision.
Et puis tant qu'on parle foot, cette révolution, l'UEFA supprime à partir de cet été l'avantage du but marqué à l'extérieur, une règle qui existait depuis 1965. Eh bien, elle sera remplacée par 2 prolongations d'un quart d'heure. C'était grâce à ce but extérieur que le PSG avait éliminé le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions.
La révolution, comme vous dites, Anaïs Feuga, merci beaucoup. Vous revenez très vite dans Un jour dans le monde, sous les radars. Vous nous parlerez notamment des Hong Kong portugais qui s'arrache le tout dernier numéro d'Apple Daily. Ce soir, nous sommes en Arménie après des législatives gagnées par Nicole Pachignan, bien gagnées, peut-être à son propre étonnement d'ailleurs. Et puis 19h20, c'est le téléphone sonne. Allez-y, le standard vous attend. On parle du mélange entre sport et politique ce soir. Mais est-ce que c'est vraiment un mélange quand on met un genou à terre ou qu'on joue dans un stade éclairé aux couleurs LGBT+ ? Est-ce que le sport doit être hermétiquement clos à tout ce qui bouge à l'extérieur ? Est-ce que les instances du foot ont été prises de court ? Est-ce qu'elles doivent laisser les joueurs jouer un rôle actif, laisser filer en quelque sorte ? On en parle au 01 45 24 7000.